France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 31 mai, bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la vaccination pour tous, les 18-49 ans peuvent désormais se faire vacciner, étape clé pour éviter un rebond de l'épidémie, alors que les restrictions s'allègent peu à peu dans les hôpitaux, le nombre de malades en réanimation est passé sous la barre des 3000. On voit tout cela avec vous Agnès, après les autres titres.
En Dordogne, la traque du forcené se poursuit. Un coup dur pour Benjamin Netanyahou. La droite radicale se rallie au centre. Le premier ministre israélien au pouvoir depuis 12 ans pourrait être évincé. En France, des élections législatives partielles et des électeurs peu nombreux qui choisissent le statu quo. Enfin, circuler, il n'y a plus rien à voir. Les spectateurs de Roland-Garros, mis dehors à 21h, couvre-feu oblige.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, c'est une réforme qui doit passer cette semaine et qui fait presque l'unanimité contre elle. La décision du gouvernement de supprimer les corps préfectoraux en plus de celle de l'ENA. De Bernard Cazeneuve à Xavier Bertrand, passant par Marine Le Pen, ils sont tous contre. Elle la défend envers et contre tous. La ministre de la Transformation de la Fonction Publique, Amélie Montchalin, sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec la journaliste Anne Sinclair. Elle publie « Passé composé » chez Grasset. Ce sont ses mémoires. Vos questions dès maintenant, le standard vous attend au 01 45 24 7000.
France Inter.
Fini donc les critères d'âge ou d'état de santé. La vaccination est désormais ouverte aussi aux 18-49 ans. Cela concerne 28 millions de personnes supplémentaires. La France a reçu suffisamment de doses pour répondre à la demande. Le souci est plutôt du côté de l'injection de la seconde dose en période de vacances. Le ministère de la Santé doit dévoiler un plan spécifique dans les jours à venir pour approvisionner en doses supplémentaires les lieux très touristiques. Mais il reste conseillé de recevoir les deux doses dans le même centre de vaccination. Précaution prise par ces primo-vaccinés rencontrés hier par Marion Ferrer devant un centre de vaccination parisien.
Devant le parc des expositions, ils sont nombreux à sortir avec le précieux sésame en main, l'attestation de la première injection. Parmi eux, Maria, 42 ans.
Ah oui, je suis contente parce que je vais être plus tranquille cet été pour me déplacer, pour circuler en France ou même ailleurs.
La seconde dose est prévue 6 semaines plus tard, le 6 juillet, juste avant son départ en vacances en Corse. Pas évident pourtant de trouver un créneau.
Il fallait rester connecté. Je crois que pendant une heure, j'ai fait que ça et j'ai réussi à trouver un créneau. Je pars pour la semaine du 14 juillet, voilà, sereinement. Et je suis contente de l'avoir fait.
Même stratégie et soulagement pour Justine et son copain. Le couple compte partir en août. La destination est encore inconnue, mais ce sera hors des frontières.
Pour le passeport vaccinal aussi, je suppose qu'il le faut, que les pays vont le demander. Et l'idée de ne pas repasser des vacances comme l'année dernière, à pas trop pouvoir sortir. On aime bien voyager, donc c'est mieux de pouvoir être vacciné pour pouvoir le faire.
Il y a quand même des loupés dans le calendrier de certains. Anne-Sophie part dans 4 semaines. Elle n'a pas encore pris rendez-vous, mais faute de mieux, elle veut au moins recevoir la première injection.
Il y a des créneaux, donc je pense que ça va être faisable. Pour moi, je vais la faire d'ici une semaine. 2 semaines maximum et la deuxième dose un mois plus tard. Je vais dans ma famille, il y a des personnes âgées donc je préfère quand même avoir eu une première dose.
Quitte à revenir à Paris pour recevoir cette deuxième dose.
Reportage de Marion Ferrer, on est actuellement à plus de 25,5 millions de primo-vaccinés. Rappelons que l'objectif du gouvernement est de 30 millions de Français ayant reçu une première dose mi-juin. Dans les hôpitaux, la pression continue de diminuer avec moins de 3000 malades Covid en réanimation. Et nouveau signe d'un retour progressif à la normale, le retour en classe à 100% des collégiens de 4e et 3e de 15 départements qui étaient en demi-jauge depuis plusieurs semaines. Demi-jauge maintenue dans les lycées. Et puis dans les écoles, à l'heure du bilan de la crise sanitaire, les classes dédoublées de CP et CE1 en réseau d'éducation prioritaire ont été particulièrement touchées. Faute d'enseignants, les classes ont souvent dû être regroupées. Sonia Princé.
Par manque de remplaçants en raison de la crise sanitaire, les dédoublements de classes de CP et CE1 ont souvent été suspendus. Comme le raconte ce directeur d'une école REP Plus à Vaux-en-Velin, près de Lyon, Benjamin Grandener, qui est aussi secrétaire départemental du syndicat Syndicat SNUIPP 69.
La situation était telle dans le Rhône que l'inspecteur d'académie a donné instruction de ne plus envoyer de remplaçants dans les écoles d'éducation prioritaire, en disant que les écoles devaient se débrouiller avec les moyens qu'elles avaient à leur disposition, quitte à annuler les dédoublements de CP ou CE1. Donc si j'avais des enseignants étaient absents en CM1 ou en CM2 ou en CE2, on disait, vous pouvez remettre ensemble des classes dédoublées, ça libère un enseignant qui peut s'occuper du remplacement.
À Lille, Clément, Valence, professeur en classe dédoublée à l'école d'Uruy, s'est aussi retrouvé à faire cours en classe entière.
25 élèves, c'est beaucoup plus difficile et les élèves, on peut moins aller les voir, moins aller les aider et finalement, on fonctionne comme en classe ordinaire. Parfois, on a beaucoup d'élèves qui sont par exemple primo-arrivants ou on a des élèves aussi qui ont vraiment une barrière de la langue. Donc tout ça, c'est travailler en petits groupes et ce sont des choses que l'on ne peut plus faire de cette façon-là.
Clémence trouve que ses élèves ont progressé moins vite cette année. Déjà en difficulté, ils sont un peu plus fragilisés par la crise sanitaire.
La crise sanitaire qui creuse le déficit de la France. Il devrait atteindre les 220 milliards d'euros à la fin de l'année. Selon les nouvelles prévisions du ministre chargé des comptes publics, c'est 47 milliards de plus que prévu. Et c'est un record depuis 1945.
Il est 7h06, le forcené du Lardin Saint-Lazare, Agnès, est toujours en fuite.
Cet ancien militaire de 29 ans condamné à plusieurs reprises pour violence conjugale et cherché depuis plus de 24 heures après une nouvelle agression sur son ex-compagne. Le général André Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, c'est lui qui coordonne l'ensemble des recherches. Il était il y a quelques minutes l'invité de nos confrères de France Bleu Périgord.
Eh bien, cette nuit, donc, nous avons poursuivi nos recherches. Le dispositif nocturne a été mis en place conformément à ce que nous avions prévu. Nous avons dû procéder à un certain nombre de vérifications sur des indications que nous avons reçues. À ce stade, nous n'avons pas localisé l'auteur, mais le dispositif a été remis en place ce matin après une relève de l'ensemble des unités. Et nous poursuivons méthodiquement nos recherches. Alors la première difficulté pour nous, c'est d'essayer de rendre au plus vite la vie des habitants normale. Voilà, il s'agit de limiter au maximum les nuisances pour la population, mais il faut que chacun comprenne qu'à ce stade, cet homme est dangereux. Il a fait usage à de très nombreuses reprises de son arme sur les limiteurs de la gendarmerie, ce qui nous fixe un certain nombre de contraintes. Et puis le terrain n'est pas non plus un terrain facile, hein, il est assez propice à se cacher, à se dissimuler ou à progresser discrètement. Donc voilà, c'est un terrain qui est compliqué.
Les dernières précisions du général André Pétillot et ce matin, les écoles vont rester fermées au Lardin Saint-Lazare ainsi que la papeterie de Conda. Direction Israël à présent, où la fin de règne de Benjamin Netanyahou n'a jamais paru aussi proche après 12 ans au pouvoir. C'est le ralliement hier soir du chef de la droite radicale au centriste Yair Lapid qui pourrait faire basculer le pays. Yair Lapid a jusqu'à mercredi pour former un gouvernement de coalition. Benjamin Netanyahou, qui n'a pas réussi à former ce gouvernement, a aussitôt mis en garde le pays contre le danger pour la sécurité que représenterait ce nouveau gouvernement. Les Israéliens, eux, sont divisés. Reportage à Jérusalem de Rémi Brancato.
Près de la rue de Jaffa, dans les artères piétonnes, commerçantes du centre de Jérusalem, après 12 ans de Netanyahou au pouvoir, la lassitude s'exprime facilement. Yossi se dit pourtant de droite, mais veut du changement.
Je serais vraiment heureux de me débarrasser de Netanyahou. Je veux un gouvernement sans les juifs orthodoxes, pour que toute la population soit soutenue.
Mais le Premier ministre a encore des partisans convaincu notamment qu'il est le meilleur chef de guerre pour le pays.
L'Iran, le Hamas, le Hezbollah n'ont peur que de Netanyahou. Tous les Arabes ont peur de Netanyahou.
Pour Dani, les 11 jours de bombardement sur Gaza en sont la preuve.
L'armée israélienne est la meilleure dans la région. Si nous avons un autre Premier ministre, j'espère que tout ira bien, mais je n'en suis pas sûr, car si votre gouvernement dépend des Arabes ou des partis de gauche, vous ne pouvez rien faire.
C'est une coalition hétéroclite de la droite radicale à la gauche qui négocie pour former ce bloc du changement, tout sauf Netanyahou en quelque sorte. Mais rien n'est encore fait, avertit Hofer.
Jusqu'au dernier moment, on ne peut pas savoir. Il peut faire une manœuvre politique, c'est sa spécialité.
Hier soir, Benjamin Netanyahou a appelé ses partisans à se mobiliser contre cette coalition qui vise à le renverser. Un danger pour Israël, selon lui. À Jérusalem, Rémi Brancato, France Inter.
Un coup de tonnerre dans les relations transatlantiques. Plusieurs médias européens, dont le quotidien Le Monde, révèlent que les États-Unis ont espionné des responsables politiques en Europe, dont la chancelière Angela Merkel. Les faits remonteraient à 2012-2014 lors de l'affaire Snowden et sous mandat de Barack Obama.
Il est 7h09, le début aujourd'hui de la campagne officielle pour les élections régionales et départementales.
À 3 semaines du premier tour, le 20 juin, les temps de parole sont désormais comptés et les 15 ministres candidats sont désormais tenus à un droit de réserve. Et puis il y avait hier 4 législatives partielles. Premier enseignement, une très forte abstention, entre 70 et 75%. Second enseignement de ce premier tour, une prime au sortant. Maxence Lambrecq.
Soulagement dans la Macronie, pas de vote sanction contre la ministre Brigitte Bourguignon. L'ancrage local a payé. L'ex-socialiste avait succédé en 2012 à Jack Lang dans cette circonscription qui l'a vu naître. Elle rassemble 35% des voix contre 20 pour la candidate RN. Même duel qu'il y a 4 ans et consigne de vote immédiate du patron des Hauts-de-France. Aucune hésitation, barrage au RN, a tweeté Xavier Bertrand hier soir. Le candidat à la présidentielle ose donc appeler à voter pour une ministre d'Emmanuel Macron. Il prône le Front républicain pour pouvoir en bénéficier dans 3 semaines dans l'entre-deux-tours des régionales où le RN risque là aussi d'arriver deuxième. À Paris, dans le 20e arrondissement, la bataille des gauches a livré son verdict. Le PS, 5 points devant la France insoumise. Même finale qu'en 2017. Europe Écologie Les Verts en arbitre avec 18% des voix, pas suffisant pour se maintenir. Enfin, pas de changement à l'horizon dans l'Oise. Le candidat LR neveu d'Olivier Dassault très loin devant. Et en Indre-et-Loire, l'héritière de Sophie Oconi, UDI, en tête avec 25 points d'avance sur la gauche.
Maxence Lambrecq, une fin de saison chahutée pour le FC Nantes qui reste en Ligue 1 malgré sa défaite hier soir face à Toulouse à la Beaujoire 1-0. Les Canaris s'étaient imposés 2-1 au match aller. Et puis dans la soirée, plusieurs dizaines de personnes cagoulées ont réussi à s'introduire dans le stade et ont agressé des salariés du club. 2 personnes ont été légèrement blessées. Enfin, le soleil était au rendez-vous hier pour la première journée du tournoi de tennis de Roland-Garros. Le public était dans les tribunes, en jauge réduite certes, mais voilà, à 21h, couvre-feu oblige, les spectateurs ont été priés de quitter la porte d'Auteuil. Reportage de Jean-Pierre Blimont.
Mesdames et messieurs, malheureusement, en raison du couvre-feu, les portes du stade vont fermer dans quelques minutes. Nous vous remercions de bien vouloir vous diriger vers la sortie.
Il est 20h45, un quart d'heure avant le couvre-feu, l'annonce redoutée est diffusée dans le stade. Sur le court Simone Mathieu, où le match du Français Corentin Moutet est très indécis et accroché, ce couple de Parisiens, Manon et Florian, quittent les tribunes à regret.
C'est tellement frustrant de s'en aller, alors on laisse les joueurs un peu comme ça, seuls devant leur fin de match.
Je pense que le soutien d'un public est important, surtout une fin de match serrée comme ça. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, on doit quitter et les laisser terminer tout seuls.
Car le contraste est en effet saisissant pour Corentin Moutet, très soutenu avant 21h et soudain très seul après le couvre-feu, il finit par s'incliner, comme Jérémy Chardy un peu plus loin sur le central.
C'est bizarre, à 7-0, 11h du soir, personne dans les tribunes. C'était un peu dur dans la tête.
Pour Joachim, venu d'Alsace, 21h, c'est beaucoup trop tôt pour un tel rendez-vous.
C'est vrai que c'est un peu dommage de devoir nous mettre un peu à la porte, quoi, parce que bon, on est là pour la journée, on a l'habitude des fois de finir sur des cours annexes à 21h, 22h, c'est génial, quoi.
Hier soir, 5 matchs se sont poursuivis au-delà des 21h fatidiques dans un stade Roland-Garros soudain déserté par le public. Une situation inédite.
Reportage de Jean-Pierre Blimont. 8 Français sur 9 éliminés donc hier. C'est 8 dur. En lice aujourd'hui, on croise des droits et puis entrée en lice également aujourd'hui de Roger Federer.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes en RDC. Les plaies de la région des Grands Lacs réveillées par le volcan Niragongo.